Top, c'est parti.
Comment ça marche le journalisme?
Sur Twitter, Instagram.
On est dans un moment de grande confusion.
C'est votre dernier mot.
Il est exactement 9h40 sur France Inter, c'est l'instant M qui recommence.
Bonjour à tous et bon dimanche.
Ça reste la référence, mais je regarde jamais la télé.
4 secondes exactement, parce que nous sommes en... Yeah.
Stéphane Bern persiste et signe. Aucun homme politique de gauche ni affreux historien marxiste n'aura, qu'on se le dise, la peau de secret d'histoire. À l'antenne depuis maintenant 13 ans, le magazine fait fi des critiques sur sa vision de l'histoire. Alors je vous les rappelle, individualiste, conservatrice, dévouée aux têtes couronnées et un roman national désuet. Et revient tout guilleret avec un portrait, au demeurant fort bien fait, de Marie-Antoinette et de son petit cercle. Coterie hors sol et hors du temps, multipliant les dépenses et les transgressions sans entendre la France qui gronde. Mais secret d'histoire, entend-il ces grondements? Question au souriant, monsieur Bern, que nous soumettrons également, c'est trop tentant, à l'actualité, du côté de la monarchie britannique. En effet, le prince Harry et son épouse Meghan Markle ayant déclenché un tsunami médiatique mondial, décidément, ces têtes couronnées qui aspirent à la vie privée.
L'instant M. Sonia De Villers sur France Inter.
Ça en fait, là, aujourd'hui, beaucoup des princesses rebelles. Bonjour,
bonjour
Stéphane Bern.
Bonjour, Sonia, bonjour à tous.
Alors, secret d'histoire, je l'ai dit depuis 2007 à l'antenne. Secret d'histoire passé sur la 3, cette saison, avec succès, sur une case du lundi soir qu'on disait plus ou moins sinistrée. Manifestement, vous l'avez sauvé. Vous demeurez néanmoins un animateur de France 2 pour quelques grands événements.
C'est le service public, disons.
C'est le service public. Alors, on y va. Le duc et la duchesse de Sussex, c'est l'actualité. On choisit Instagram pour annoncer leur retrait la semaine dernière et leur volonté d'indépendance économique. Choc d'abord en Grande-Bretagne. Écoutez la BBC.
It's astonishing. It's momentous. It has no precedent in modern times. The golden couple have decided they're quitting. Multiple sources at the palace have told the BBC that no members of the royal family were consulted about this by Harry and Meghan. There is talk of disappointment. There is talk of senior members of the royal family.
Les membres de la famille royale, pas
personne
consultés,
n'est consulté.
Mis devant
c'est
le un, fait,
sans précédent.
C'est sans précédent. Ça, c'est la BBC. Toutes les chaînes sont à l'unisson. La presse britannique du week-end, elle est très, très importante. Elle est très lue, elle est très achetée. En Grande-Bretagne, consacrée des dossiers entre 15 et 20 page par titre de presse, mais surtout quand je parle d'un séisme médiatique, c'est un séisme médiatique mondial. Il fallait lire la presse américaine, Stéphane Bern, ce week-end, toutes les chaînes américaines, mais les grands titres de presse, le New York Times, le Washington Post, le Time Magazine, tout le monde se passionne pour cette histoire. Vous en comprenez l'ampleur ? Vous l'expliquez, ce séisme ?
Je m'explique, ce séisme, j'ai du mal à le comprendre personnellement, si vous voulez. Je trouve que le prince Harry est sixième dans l'ordre de succession au trône. Ça va pas déclencher, si vous voulez, c'est pas
une
l'affaire
Édouard
VIII. Il y a aucune crise constitutionnelle. C'est pas Édouard VIII qui épouse une américaine, Wallis Simpson, et qui met en péril le trône d'Angleterre.
C'est ça, rappelons qu'il a abdiqué. Il a renoncé
abdiqué,
à être
etc., par amour d'une femme. Et aussi parce qu'il avait des sympathies nazies.
Oui, enfin, c'est ça, juste c'est ce que autre
chose. mais le prince Harry, voilà. Ça pose le problème. Et j'ai lu quelques éditoriaux qui m'ont beaucoup plu, qui font la comparaison avec le Brexit. Pourquoi ? Parce que on veut être dedans et dehors à la fois. On veut continuer à être membre de la famille royale, à jouir des privilèges, à avoir les Rolls, les diadèmes, les robes longues et puis la maison de vacances payée par les contribuables britanniques. Et dans le même temps, on veut aller gagner son indépendance financière en travaillant, en vivant au Canada. Elle veut refaire du cinéma, etc. C'est difficile, il faut choisir. Quand vous épousez le prince Harry, ce que j'ai envie de dire à cette chère Meghan, vous épousez 66 millions de sujets britanniques qui tous les matins vont dévorer au petit déjeuner vos faits et gestes. Oui, il y a de l'intrusion médiatique. Alors, elle ne supporte pas, donc elle veut se protéger de cette intrusion médiatique, partir. Moi, sur le fond, il n'y a aucun problème. Ce qui pose le problème, c'est la forme.
Exemple,
c'est qu'elle ne dit rien à personne et elle envoie elle poste ça sur Instagram.
Sur les réseaux sociaux.
Alors, c'est d'une grande modernité, évidemment. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on raconte sa vie, tout ce qu'on fait.
Mais regardez, par exemple, cette page du New York Times, donc quand même vraiment très sérieux, qui dit les sujets britanniques, je traduis le titre que j'ai sous les yeux, savent pourquoi Meghan Markle veut partir, veut quitter l'Angleterre à cause du racisme.
Je ne sais pas si elle est victime de racisme. Ce qui est terrible, c'est que
Comment est-ce qu'elle a été acceptée par la firme?
Elle a été mieux acceptée par la firme et par l'establishment.
La femme, c'est le surnom de la famille royale.
C'est le surnom de la famille royale. Elle a été mieux acceptée. J'allais dire dans les cercles un peu aristocratiques.
Vraiment,
oui, vraiment.
Parce que c'est le royaume de l'entre-soi, alors, blanc, figé, que, conservateur.
Oui, c'est la presse tabloïde qui a été la pire. C'est la presse populaire. C'est un racisme populaire. C'est pas du tout un racisme de l'establishment. Quand vous prenez les pères du royaume, ceux qui siègent à la Chambre des Lords, il y en a un bon tiers qui a épousé des femmes d'origine asiatique, d'origine africaine, etc. Donc il n'y a pas de racisme dans la Chambre des Lords. Ou dans l'establishment. Il y en a beaucoup plus de la part de la presse tabloïde populaire. C'est un racisme, j'allais dire, assez basique, vous voyez. Et puis d'abord, parce qu'elle est américaine. Je ne suis pas sûr que ce soit parce qu'elle est métissée. Moi, je trouve qu'au contraire, ça donnait un coup de fouet à la monarchie et ça régénère le sang, ça ne fait jamais de mal. Mais si vous voulez, ce qui est incroyable, c'est la déconnexion entre... Alors, parlons pas de eux qui me paraissent complètement déconnectés des réalités. Parce que le cher prince Harry, qui veut travailler, tout en gardant son titre, il va faire quoi? Un entretien d'embauche? Il explique quoi? Qu'il est duc de ce sexe? C'est quoi ses compétences?
Elle a gagné son propre argent.
Mais si vous voulez, c'est relatif, l'indépendance financière, quand vous avez hérité de Diana 30 millions d'euros sur votre compte en banque. Oui. Bon, alors, passons. mais de la part, donc j'ai un peu la dent dure, évidemment, mais ça paraît quand même incroyable. Mais c'est la déconnexion entre la réalité politique du Royaume-Uni et puis ce type qui est le prince Harry, qui est sixième dans l'ordre de succession au trône. Il n'y a aucun enjeu politique, il n'y a aucun enjeu constitutionnel, si ce n'est que psychologiquement, il a trahi la reine. Et ça, c'est quelque chose qui ne passe pas. C'est-à-dire que toute la presse unanime, on n'a pas le droit de quitter la reine. C'est-à-dire, c'est une femme de 93 ans qui lui a rien fait. Il est son petit-fils préféré. Il lui dit, ciao, mamie, je pars au Canada. Et puis, c'est un peu naïf.
Il promet de continuer à la soutenir.
À la soutenir,
il
oui.
Il n'empêche que c'est vu.
C'est vrai que le Canada est un dominion. Enfin, en tout cas, fait partie de la couronne britannique. Juste d'un mot, quand même. Il pense échapper à la pression médiatique. Vous savez, les tabloïdes peuvent très bien payer un billet d'avion jusqu'à Toronto ou Ottawa.
Évidemment, on rigole. Alors, Marie-Antoinette, puisque c'est le sujet de ce soir en prime time sur France 3 dans Secrets d'Histoire. Je le rappelais en introduction, les débats et polémiques sur ce qu'on appelle les historiens de garde et le roman national, toujours très en cours à la télévision, eh bien vous êtes passé à travers. La France insoumise qui sonne l'alarme sur cette vision de l'histoire de France, tellement de droite et tellement datée.
Oui, mais ils sont gentils avec moi en même temps.
Oui. Vous savez, mais non, tout le monde est gentil avec
non,
vous,
c'est pas
Stéphane
ça,
Merde.
Mais je vous aide. Non,
attendez.
Suis obligé. Oui.
Vous persistez, vous signez avec ce Marie-Antoinette comme une sorte de nique à tout ce qui vous a été dit. On écoute la fin de cette reine que vous réhabilitez, cette reine martyre.
6 mois plus tard, Marie-Antoinette est séparée de son fils qui est transféré dans une autre cellule de la prison du Temple.
C'est évidemment ces décalages entre les premières années de sa vie où elle était perdue, elle était isolée, elle était seule, et les dernières années de sa vie où elle est sans rien, où elle n'a plus rien, où elle connaît une autre forme de solitude, que se scelle véritablement son destin.
Et voilà comment on passe de la reine déficit à la reine martyr dans cette fin tragique.
Oui, c'est une fin tragique. Elle a été guillotinée, vous le savez, le 16 octobre 1793. Et c'est vrai qu'elle est... on dit que pendant une nuit, elle a perdu tous ses... ses cheveux sont devenus blancs à cause des malheurs. Je ne sais pas si ça la réhabilite. Ce qui m'intéressait dans cette émission sur la coterie de la reine, c'est de voir comment le pouvoir peut vous isoler. Comment, pour vous protéger d'une certaine... D'abord, pour gagner votre liberté. Puis ensuite, pour vous protéger, vous vous entourez de gens qui vous sont favorables, d'une petite cour, d'une coterie, qui vous isole et qui finit par vous devenir hors sol. Vous êtes complètement déconnecté des réalités.
Mais est-ce que vous, dans Secret d'Histoire, est-ce que vous, Stéphane Bern, en traitant l'histoire de Marie-Antoinette, vous ne faites pas exactement la même chose? C'est-à-dire que vous isolez Versailles, vous faites de Versailles une bulle que Marie-Antoinette aurait voulu qu'il fût, mais vous faites de Versailles une bulle et vous le sortez du contexte historique. Évidemment qu'elle subit une fin tragique, mais... Que signifie cette fin tragique si elle est complètement coupée du contexte? Vous n'en dites rien. Son exécution est une décision totalement politique. Elle ne devait pas être décapitée, vous le savez bien. La guerre fait rage aux frontières, vous n'en parlez pas. La République juste 2 ans, vous n'en parlez pas. C'est le frère de Marie-Antoinette qui dirige les coalisés aux frontières
de la France. Joseph II,
Marie-Antoinette trahit en demandant à son frère de marcher sur Paris.
C'est pas le sujet, pardon Sonia. J'ai fait une émission sur Marie-Antoinette.
C'est quand même
Ça c'est pas une émission sur Marie-Antoinette.
C'est quand même bien pour ça qu'elle est décapitée.
Elle est décapitée, bien sûr. Oui. J'ai fait une émission sur Marie-Antoinette, un vrai portrait d'elle dans la Révolution. Mmh. Là, c'est une émission sur la coterie de Marie-Antoinette. Oui. C'est-à-dire que ce qui m'a... les personnages centraux, c'est pas Marie-Antoinette, c'est la princesse de Lamballe, c'est Madame de Polignac, Diane de
la
Polignac.
La princesse de Lamballe qui va être massacrée, bien sûr.
Mais c'est Fersen, c'est cette coterie qui m'intéresse. Dans une... c'est, j'allais dire, c'est le deuxième volet. Donc ne me faites pas un mauvais procès sur Marie-Antoinette.
Avec plaisir.
Parce que non. Et encore une fois, je vais vous dire, j'ai fait des émissions sur la Révolution française, sur les femmes dans la Révolution française. Je vais vous dire, mon héroïne, moi, c'est Olympe de Gouges. Mmh. C'est le point commun que j'ai avec Michel Onfray. C'est vrai qu'on a une passion pour Olympe de Gouges.
Alors d'ailleurs,
sur
Thérouanne
de Méricourt.
C'est drôle parce que on apprend plein de choses dans ce portrait de la coterie de Marie-Antoinette. On va y venir. Moi, j'étais assez choquée par la fin parce que je la trouvais tellement déconnectée du contexte politique que ça en devient soit malhonnête, soit très orientée comme façon de raconter
pas orienté,
la fin
c'est que, c'est,
de Marie-Antoinette.
Pardon, mais c'est on s'attache à des personnages. Oui. Alors, on peut me faire le procès, évidemment, de ne pas raconter l'histoire des idées, l'histoire... Les contextes, je l'ai fait déjà dans des émissions sur la Révolution. Juste un mot pour répondre à tous mes avec Alexis Corbière et aux autres avec qui on communique régulièrement, c'est que chaque fois que je fais des émissions sur les révolutionnaires, sur les peintres, sur les personnages, sur Clémenceau, ça marche moins bien que quand je fais des émissions sur Marie-Antoinette. Donc France Télévisions qui en même
chic,
temps
le service public qui veut de l'audience et
un peu d'audience me dit non,
certain...
alors oublie tes révolutionnaires un
genre
peu
d'histoire.
Et par contre, mets un peu plus de royauté parce que ça marche davantage. Très bien. Alors ensuite, c'est une question d'audience.
On est content de payer la redevance.
Non, mais en même temps, je ne suis pas le seul à faire de l'histoire à la télévision, mais je dois vous dire que j'ai traité beaucoup de révolutionnaires.
D'ailleurs, c'est drôle, Stéphane Bern, parce que justement, je me suis dit, est-ce qu'il a traité un jour des femmes dans la
bien
Révolution
sûr, les
coup,
femmes dans la
cherché.
Révolution. Mais
vous
oui.
l'avez fait en 2016, et en effet, flop d'audience.
Flop d'audience. C'est quand même fou. Alors que c'était ma passion, je vous dis, Thérouanne de Méricourt, Olympe de Gouges.
Madame
donc
de
c'est
Stahl.
Injuste, Madame de Salles, c'est injuste. Mais bon, le public, en même temps, a le droit de choisir et aime ce qu'il aime. Là, au fond, ne me faites pas le procès sur Marie-Antoinette dans le contexte de la Révolution, parce que l'émission existe. Vous pouvez la retrouver sur YouTube. En revanche, là, c'est une émission sur la coterie de la reine. C'est sur les personnages qui l'ont entourée, qui l'ont peut-être isolée, sur le comte d'Artois, la Polignac, la Lamballe. Ces amitiés un peu étranges, cette femme qui s'enferme dans le petit Trianon pour échapper à la réalité politique du moment. Et donc, c'est un destin tragique, évidemment, mais c'est aussi... vous voyez, on parlait de Harry et Meghan. Bah, j'y trouve... C'est peut-être le film de Sofia Coppola qui fait le lien entre tout cela.
Sur Marie-Antoinette.
Sur Marie-Antoinette, ce sont les people, au fond, avant l'heure. Mm-hmm. Ils veulent... ils sont enfermés dans un système qui les broie. Ils ont fait... c'est l'aliénation.
Alors,
comme
de
dirait Bethel Haim,
de leur
vie privée. Et tout d'un coup, ils réclament la liberté d'être heureux, d'être amoureux. Etc.
Alors, c'est l'occasion de raconter la cour à Versailles, les privilèges accordés selon le fait du prince et son humeur, des charges extrêmement lucratives.
C'est l'occasion
de raconter des clans qui se goinfrent littéralement.
Une horreur.
Les Polignac, par exemple.
Pas les Polignac, mais les prébendes, les subventions, ils font payer leurs dettes. Mais c'est un scandale. Je veux dire, je peux comprendre. J'ai un peu
l'esprit révolutionnaire. C'est l'occasion de plonger aussi dans l'histoire de la mode, le parfum, la coiffure, le pouf, par exemple.
Alors, il y a la coiffure à la rentrée du Parlement, le bonnet à la révolte, parce que c'est au moment de la guerre des farines, en 1776. La frégate, puisque au moment de la guerre franco-anglaise, la frégate d'Abel Poul s'était comportée glorieusement face à la flotte anglaise. Eh bien, on porte un bateau dans ses cheveux.
Ces poufs peuvent atteindre plus d'un mètre de haut et peser jusqu'à 5 kilos. Ils nécessitent des heures et des heures de travail.
Voilà comment on raconte les excès et les dérives d'un pouvoir
et de la mode,
à travers la coiffure.
À travers la mode, à travers les vêtements. Vous savez qu'elle a porté une robe qu'on appelait à la Gaule. C'était une sorte de robe de chambre. Enfin, une sorte de nuisette transparente. Ça a fait scandale à l'époque parce que une reine doit toujours se montrer en tenue d'apparat. Et donc, elle a cassé les codes dans l'exposition sur Marie-Antoinette, surtout sur Elisabeth Vigée-Lebrun il y a quelques années au Grand Palais. sa portraitiste préférée, on voit, elle a voulu choquer, par exemple, Beaumarchais qui était interdit à la cour, elle n'hésitait pas à le jouer au petit théâtre de la Reine qu'on montre dans Secret d'Histoire, on montre les coulisses de ce petit théâtre. Auteur interdit oui. est joué par la Reine et ses amis. Ça paraît
devant qui? Devant qui, puisque vous le racontez.
Mais oui.
Devant qui, c'est-à-dire que, par exemple, la sœur du roi refuse de jouer, puisqu'elle dit « si je ne suis pas reine, je suis... »
C'est un mot d'esprit que j'adore.
Je suis...
L'autre lui dit « vous pouvez bien jouer, je le fais bien, je suis la reine. Je ne suis pas reine, mais je suis du bois dont on les fait. »
Voilà, donc elle refuse de se commettre et de se rabaisser au niveau d'une actrice, d'une vulgaire comédienne. Mmh. Et donc, la reine joue Beaumarchais devant une salle remplie de domestiques
Exactement.
Et de serviteurs.
Oui, parce que les autres ne voulaient pas absolument. Je vous rappelle que Beaumarchais était interdit à la cour à cause de... Voilà, c'était...
Il y a, à travers cette histoire du XVIIIe siècle, aussi une histoire de médias, alors avant les médias de masse, une histoire de l'image et de son impact. Mmh. Vous venez de parler d'Elisabeth Vigier-Lebrun, sa portraitiste. On écoute.
Dernière gravure de la série, on voit Louis XVI qui est tout juste bon à bercer l'héritier du trône pendant que Marie-Antoinette, à nouveau, est en train de faire l'amour avec, visiblement, un homme dans le fond de la pièce. Donc on a vraiment la thématique du roi impuissant et de la reine licencieuse.
Pour tenter de contrer les calomnies, Marie-Antoinette et la direction des bâtiments du roi décident également de commander un nouveau tableau à Elisabeth Vigier-Lebrun. La consigne transmise à l'artiste est claire, représenter la reine au château de Versailles, entourée de ses enfants, garant de la continuité dynastique. Tout un symbole.
C'est extrêmement intéressant.
C'est intéressant. Et d'ailleurs, il y a une exposition. Je renvoie, c'est les derniers jours à la conciergerie organisée par le Centre des Monuments Nationaux à Paris. C'est formidable. Ça s'appelle, c'est l'image de Marie-Antoinette. Il y a toutes les caricatures.
Voilà. Alors, elles sont placées à
1m20 pour pas que les enfants puissent voir parce que c'était vraiment indécent.
Elles
et des choses immondes.
Elles sont d'une violence. C'est d'une vulgarité, d'une violence, d'une pornographie.
Mais bien sûr.
C'est vraiment comment on s'attaque à une femme à travers le sexe, à travers son corps. Parce qu'on la voit vraiment avec le sexe ouvert aux quatre vents. Enfin, elles sont absolument incroyables.
Et c'est ce qui explique le massacre de la princesse de Lamballe aussi. On lui arrache le sexe.
Ouais,
ce qui est quand même
un révolutionnaire s'en fait des moustaches.
C'est un truc monstrueux, mais justement, parce qu'on racontait. Il y a donc des gens qui ont cru tout cela.
Mm-hmm. Et c'est intéressant de voir comme la peinture et l'image on est vraiment là dans une opération de communication. C'est-à-dire qu'à travers les portraits, cette nuisette dont vous parlez, il a fallu Elisabeth Vigier-Lebrun avait fait un portrait de la reine dans cette chemise de nuit, dans cette tenue d'intérieur.
Mais ça manquait de majesté, donc il a fallu retirer le portrait, en faire un autre. Mmh. Et c'est le célèbre Madame Vigier-Lebrun, Marie-Antoinette et ses enfants, où elle est en robe de gala, rouge, etc. Mais c'est vrai que c'est de la communication avant l'heure. On ne savait plus quoi faire. C'est un pouvoir qui est aux abois. C'est une cour qui est isolée, décriée, moquée, et qui ne sait plus comment rétablir. Parce que au fond, Marie-Antoinette en première ligne. Autrefois, il y avait les rois avaient des maîtresses qui prenaient tout pour le roi. Maintenant, c'est Marie-Antoinette
en première
ligne.
Un dernier mot aussi, parce que c'est l'occasion de visiter ce qui vous est cher, c'est-à-dire du patrimoine. Versailles sous toutes ses coutures filmées au drone.
Et le petit Trianon, surtout.
Le théâtre
de la Reine.
Mais c'est aussi l'occasion de visiter les demeures dans lesquelles ont vécu les Lamballe, les Polignac, la belle fille du duc de Berry.
Versailles, évidemment, le château en Suède. Axel de Fersen, qui était soi-disant l'amant de la reine. Le saura-t-on jamais? Je ne sais pas.
Ah bah alors, vos historiens plaident plutôt pour le nom.
Le nom. Moi, je plaide aussi pour le nom. Parce que, encore une fois, vous m'accusez de beaucoup de choses, chère Sonia. Mais vous savez, je me retranche derrière les historiens. Moi, je ne suis que le passeur.
Voilà.
Je ne me prétends pas historien.
On les choisit,
mais
historiens,
ils sont
bien
tous plutôt d'un éventail assez large.
Ils peuvent avoir un certain pédigré, mais on les choisit, ces historiens, et la vision qu'on donne de l'histoire, on la choisit aussi.
C'est une vision divertissante pour un prime time de France 3.
Merci beaucoup, Stéphane Bern.
Merci,
Secret d'Histoire, Marie-Antoinette, ses fidèles et sa clôtrise, c'est ce soir sur France 3. Bonjour, Ali Rebéi.
Bonjour, Sénat de Villers. Eh bien, ce matin, on s'intéresse à l'alcoolisme des femmes,
Assez tabou.
Est-ce qu'il diffère de celui des hommes, qui sont les femmes qui plongent dans l'alcool? Les conséquences sanitaires sont-elles vraiment plus graves que pour la gente masculine? N'hésitez pas à témoigner ce matin au 01 45 24 7000.
Ce serait courageux et utile de témoigner.